La négresse qui danse encore à minuit dansera jusqu'à l'aurore.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Liberté sur Parole, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Liberté sur Parole, c'est une émission proposée et présentée par Eugénie Barbeza et réalisée aujourd'hui par Alexandre Barthélémy. Alors au programme de ce numéro de Liberté sur Parole, tout de suite, et bien dans le cadre de notre partenariat, une émission avec la CIMAD dont le thème va être aujourd'hui les travailleurs sans papiers. Puisque vous le savez, 500 d'entre eux occupent toujours la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, Porte Dorée, à Paris. Annette Huro est sur le plateau, bonjour.
Bonjour.
Et on entendra divers intervenants, mais tout de suite, on commence en musique avec Clarica.
La petite carte en plastique que l'État m'a donnée. Ah ouais. Je l'ai bien mérité. Naître en République dans une clinique chauffée. Ah ouais, je l'ai bien mérité. Les bancs de mon école, le pouvoir d'étudier. Ah ouais, je l'ai bien mérité. Aller voir mon docteur quand je me sens fatiguée. Je l'ai bien mérité. La douceur de l'enfance, l'amour qu'on m'a donné. Bah ouais, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Bah oui, pardi, on me l'a toujours dit. Bon sang, c'est sûr, c'est la loi de la nature. C'est l'évidence, t'avais qu'à mettre en France.
C'est le titre de cette chanson. Et puis, comme tout le monde n'est pas né en France, mais il y en a quand même qui sont sur le territoire français. Et puis, on peut dire qu'ils ont le droit quand même. Mais ce droit n'est pas reconnu par tous. Et puis, leur droit au travail n'est pas non plus reconnu. Donc, on va voir avec vous, Annette Huro, on va parler de ces travailleurs sans papier qui occupent actuellement la Cité nationale de l'histoire et de l'immigration. C'est un peu une grève inédite. Hein. On les voyait pas sous cet angle, les travailleurs sans papier. On les voyait plutôt dociles, flexibles, cachés, mais là, ils sont au grand jour et pas depuis 5 minutes, depuis quand même 2 ans.
Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a eu un moment où la coupe est pleine. Effectivement, toutes ces personnes travaillent dans des secteurs dans lesquels ils sont plutôt exploités. Ils travaillent au noir ou ils travaillent avec les papiers d'autres personnes. Et après des années de travail, de cotisation, ils se rendent compte qu'ils n'ont accès à aucune forme de régularisation. Donc il y a un moment où effectivement ils ont voulu revendiquer collectivement leurs droits.
Alors le collectif, c'est très important. Parce que c'est à la fois un vrai mouvement de grève collective, et c'est aussi là que ça chope aussi, puisque on entendra avec le responsable CGT, eh bien, il se trouve qu'ils ont mené un mouvement collectif, et puis ceux qui étaient en grève n'ont pas eu, du coup, ils ont eu quelques avancées. On va faire le point avec vous là-dessus, notamment le 18 juin dernier, l'État leur a promis que avec 12 mois de travail sur 18 pour les intérimaires et je sais plus sur 20, combien sur 24 pour ceux qui ne sont pas intérimaires, ils pourraient être déposer un dossier et peut-être être régularisé. Mais en l'occurrence, on ne reconnaît pas leur grève. Donc ceux qui sont en grève n'ont pas leurs 12 mois sur 18.
Tout à fait. En fait, ce qui a chopé au moment des négociations en juin, c'est que donc il y a eu certains textes qui ont été produits, un accord, un addendum, un guide de bonne pratique lui-même qui venait en supplément d'une circulaire pour préciser un petit peu ces conditions de régularisation. En prévoyant une durée d'activité salariée antérieure pour permettre, pour pouvoir demander un titre de séjour. Le problème, c'est que le temps de grève, contrairement à ce qui avait été posé oralement entre les syndicats et le gouvernement, le temps de grève n'est pas reconnu comme une activité salariée. Et donc, très clairement, c'est les grévistes qui se sont retrouvés un peu mis sur la touche, alors que c'est eux qui avaient porté le mouvement et qui avaient permis à ce qu'on obtienne enfin ces textes-là.
Voilà, donc bon, on va écouter peut-être Raymond Chauveau qui explique bien les choses et qui explique aussi le sentiment d'injustice.
Cet accord avec le gouvernement, ces fameux 12 mois sur 18, etc., ça s'applique à tous les travailleurs sans papier, qu'ils fassent grève ou pas.
Mais c'est ça qui est très important, très important. Vous avez un mouvement de travailleurs sans papier qui a engagé une lutte le 12 octobre jusqu'au 18 juin, non pas pour lui-même, mais pour tous les travailleurs sans papier. En disant, nous, on veut un texte pour l'ensemble des travailleurs sans papier. C'est énorme du point de vue de l'engagement. Et il s'avère que ce sont eux qui sont exclus à terme de cet engagement du gouvernement. C'est quand même énorme, là, de ce point de vue-là. Et là, vraiment...
Ouais, il y a un sentiment d'injustice, là.
Oh, c'est plus que l'injustice. C'est vraiment...
Parce que ceux qui ont obtenu des papiers, c'est ceux qui ont continué à travailler, du coup.
Bien sûr. Parce que c'est plus facile, aujourd'hui, d'arriver dans une préfecture avec 12 mois sur 18 en ayant continué de travailler, que d'arriver avec 12 mois sur 18 en ayant fait grève. Il y a une petite différence. Si on nous reconnaissait le fait que l'ensemble des camarades qui ont participé au mouvement sont de fait, je dirais de fait, et on leur a donné les noms, et ils ont tout, de fait reconnus comme étant ayant participé au mouvement, et donc la période de 8 mois de fait neutralisée, bon, ok, d'accord, mais ce n'est pas le cas puisqu'on nous chicane là-dessus. Nous chicane. Et on prétexte le fait qu'il n'y a pas ces 8 mois de paye pendant la période de grève pour dire on ne prend pas le dossier. Alors qu'on prend le dossier du travailleur sans papier qui vient aujourd'hui en préfecture sur la base de ce qui a été obtenu par les camarades.
Voilà, une belle leçon quand même qui nous donne où de plus en plus, quand on va manifester en France, on manifeste pour soi. Mais là, en l'occurrence, ils le font pas uniquement pour eux. Alors on va essayer, évidemment, la CIMAD soutient ce mouvement. Vous avez fait avec d'autres associations plusieurs communiqués là-dessus. Quel appui juridique vous pouvez leur donner, vous? Et quel est le droit général? Qu'est-ce qui a changé pour les travailleurs sans papier?
Alors, l'appui qu'on peut leur donner, c'est effectivement aider à la constitution des dossiers. C'est ce qu'on fait actuellement à la Cité de l'immigration, maintenant que se dessine un petit peu une forme de condition de régularisation des travailleurs grévistes. Ce qui a changé, c'est que a été inscrit dans un texte, malheureusement temporaire, mais a été quand même inscrit dans un texte, la possibilité de régularisation sur place pour des travailleurs, alors qu'auparavant, c'était... principalement de l'introduction de main-d'œuvre, donc la possibilité pour des étrangers qui souhaitent venir travailler en France de venir avec des papiers. Là, on reconnaît que sur place, en France, il y a déjà énormément de travailleurs qui sont déjà impliqués dans leurs entreprises, qui sont dont la valeur est aussi reconnue par les employeurs et dont on reconnaît maintenant que l'économie française a besoin de leur force de travail. Donc voilà, maintenant, c'est posé un peu plus clairement dans une circulaire. Alors qu'auparavant, c'était une des formes d'admission exceptionnelle au séjour dans un article qui comprenait d'autres formes de régularisation. Donc là, c'est posé dans un texte qui s'adresse exclusivement donc aux travailleurs. Pour l'instant, le problème, c'est que c'est une circulaire donc qui n'a pas force légale, que vous ne pouvez pas invoquer devant les tribunaux, mais qui donne des indications aux préfectures et il leur explique comment procéder à ces régularisations.
Voilà, je crois qu'il y avait une date butoir qui était, je crois, le 30 septembre.
31 mars 2011.
2011, ah d'accord. Donc oui. Ça a été prorogé. Je crois qu'au début, ça devait s'arrêter à l'automne, là. Et puis, de fait, il y a eu des négociations.
Oui, là, c'est vrai qu'on entretient beaucoup la confusion. Il y a des textes différents qui n'ont pas tous la même valeur ni la même durée dans le temps. Après, cette circulaire était venue une synthèse des bonnes pratiques, puis un autre texte qu'on appelait l'addendum en juin. L'addendum ne s'appliquant que jusqu'en septembre, mais ce texte a été prolongé puisqu'évidemment, les préfectures n'ont pas été en mesure d'instruire les dossiers durant l'été.
Alors, il y a eu à peu près 6800 demandes. Il y en a un peu plus de 1000 qui ont été déposées et pour l'instant, il y en a moins de 50 qui ont été accordées.
Alors, il y a 6804 grévistes depuis octobre 2009, donc mm-hmm. ils sont privés de revenus depuis octobre 2009, depuis un an. Parmi ces 6804 grévistes, il y avait eu 1800 dossiers déposés après le mois de juin. Donc, en fait, tous les grévistes ont tenu bon et n'ont pas fait de dépôt individuel et donc ont attendu d'avoir des critères clairs pour tout le monde. Et donc à partir de juin, quand on a pensé que c'était le cas, donc 1800 dossiers ont été déposés, sur lesquels seules 58 réponses ont été attribuées. Des réponses positives ou négatives, mais 58 sur 1800. Donc c'est là, devant ces blocages, que les grévistes se sont dit, et les associations et les syndicats qui les soutiennent, là il faut vraiment... maintenir la mobilisation et à nouveau poser un acte fort pour demander à ce que ces engagements pris soient enfin appliqués.
Alors il y a quand même un symbole fort au-delà des revendications, c'est d'occuper la cité de l'émigration. C'est pas tout à fait pareil que d'occuper le devant de l'Opéra Bastille où ils n'ont jamais pu rentrer, ni même la
Bourse du Travail.
La Bourse du Travail. Donc voilà, ça c'est quand même une très bonne idée, je trouve. Ça les pose dans notre société et il paraît qu'ils sont quand même plutôt assez bien accueillis là-bas.
Oui, ils sont pas mal accueillis. Je pense que les premiers jours, forcément, il y avait beaucoup de surprises. Et puis, les personnes de la cité, de l'histoire de l'immigration, n'étaient pas du tout... étaient très surpris par ce qui se passait. Mais petit à petit, ont compris le sens de cette lutte. Ont bien vu que c'était des personnes qui travaillaient, et pour lesquelles elles ont commencé à exprimer aussi une certaine solidarité, sympathie et... Effectivement, il n'y a pas de gros obstacles du côté des gens de la cité de l'immigration qui comprennent bien le sens de cette lutte.
Vous pensez, alors ça c'est plus à votre expérience, parce que vous avez suivi bien sûr toutes les luttes, que le fait d'être là, ça les protège d'une éventuelle expulsion déjà du lieu et éventuellement de notre territoire?
Je pense qu'il y a plusieurs choses. Enfin, juridiquement, pour l'instant, le directeur de la cité de l'immigration avait retiré sa première réflexe, qui était un ordre de réquisition, pour demander l'évacuation du lieu. Après, il peut toujours y avoir une expulsion de ce lieu pour des motifs de trouble à l'ordre public. Mais là, comme ça n'est pas le cas, il pourrait y avoir une intervention par la force, quoi qu'il arrive. Cependant, je pense que symboliquement, ça serait extrêmement malvenu de déloger les travailleurs exploités des temps modernes dans ces lieux où vous avez des fresques coloniales qui montrent la mission civilisatrice de la France dans ces pays ex-colonisés. Enfin, je pense que ça sera un symbole extrêmement violent et dégradant pour l'image de ce lieu. Donc je ne pense pas qu'ils prendront ce risque-là.
Mais sans demande des gens qui dirigent ce lieu, il n'y a pas possibilité de les expulser.
Si, il y a toujours possibilité de les expulser avec effectivement des motifs assez peu définis comme de troubles à l'ordre public ou à l'hygiène.
D'accord, donc on n'est pas sauvé totalement même. Je voudrais qu'on revienne maintenant sur le droit de grève. Alors je suis allée voir Nicolas Jounin, qui est chercheur, enseignant-chercheur à Paris 8 et qui a écrit un livre, je crois aux éditions Terra, qui s'appelle « Chantier interdit au public ». Alors il se trouve que beaucoup des travailleurs sans-papiers qui sont à la cité de l'immigration travaillent dans le bâtiment. donc Nicolas Joulin s'est intéressé justement au secteur du bâtiment comme un secteur qui emploie beaucoup de travailleurs sans papier. Et la particularité de ce secteur, c'est que ce ne sont pas les grandes entreprises qui emploient des sans-papiers, mais elles externalisent justement l'illégalité.
Il y a une forme d'externalisation, de sous-traitance des illégalités, parmi lesquelles... C'est pas la seule. Par exemple, sur l'intérim, il y a tout un jeu sur les contrats qui fait qu'on peut renvoyer les gens du jour au lendemain. Enfin, pratiquement, on peut renvoyer les gens du jour au lendemain alors que c'est illégal. C'est une illégalité qui est sous-traitée. Mais il y a une autre illégalité qui est couramment sous-traitée, c'est le fait d'employer des sans-papiers sur des chantiers de Bouygues, sur des chantiers de Vinci, sur des chantiers d'Eiffage. Pendant longtemps, et probablement jusqu'à aujourd'hui, il y a eu énormément de travailleurs sans-papiers, mais probablement très peu employés directement par Vinci, Bouygues ou Eiffage, parce que justement, il y a une externalisation de leur emploi et de leur recrutement.
Cette externalisation signifie une externalisation de la responsabilité, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas, on ne peut pas leur tenir compte devant la loi du fait de faire travailler, même indirectement, des travailleurs sans papier.
De manière générale, les entreprises, même qui emploient directement les sans-papiers, sont rarement mises en cause. Enfin, si on compare... Même les condamnations pour séjour irrégulier à l'encontre, donc le nombre de condamnations à l'encontre de travailleurs sans papier avec le nombre de condamnations d'emploi de travailleurs sans papier, il y a déjà une disproportion énorme. A fortiori, même s'il y a quelques dispositifs réglementaires qui font qu'on peut impliquer la solidarité financière du donneur d'ordre, c'est très difficile de faire porter la responsabilité sur le donneur d'ordre parce que, ordinairement, il faut prouver qu'il était au courant. Or, précisément, d'une part, ça ne s'écrit pas. Oui, je suis bien au courant que on écrit rarement. Je suis bien au courant que vous employez des travailleurs sans papier. Et d'autre part, ils ne sont pas forcément directement au courant. Enfin, toute cette forme d'organisation est une manière de déléguer et de faire en sorte de ne pas être au courant. Mmh. On se doute, bien sûr, personne. Enfin, en l'occurrence, quand mon livre est sorti sur le chantier chantier interdit au public, que j'ai rencontré un certain nombre de responsables d'entreprise générale, de ces donneurs d'ordre, personne m'a dit qu'il était particulièrement étonné par ce que je racontais. Néanmoins, ça ne veut pas dire que sur tel ou tel chantier en particulier, ils savent précisément qui est sans papier ou qui ne l'est pas, puisqu'ils ont délégué la responsabilité de leur recrutement à d'autres.
Voilà, donc ce qui est intéressant de cet extrait, c'est qu'on voit que les employeurs qui participent de l'illégalité ne sont très peu condamnés par rapport aux personnes elles-mêmes qui travaillent sans papier,
oui.
ou illégalement.
Oui, d'ailleurs, assez fréquemment, quand on voit des contrôles dans des lieux, que ce soit des restaurants ou des chantiers, c'est généralement pas les employeurs qui sont inquiétés, mais plutôt les travailleurs qui peuvent, à ce moment-là, se retrouver enfermés en centre de rétention. Oui.
Ouais. Enfin, mais bon, là, ce qu'on peut remarquer, et ce qui a été un peu confirmé à la fois par les gens de la CGT, les travailleurs eux-mêmes, c'est qu'il y a malgré tout une solidarité qui s'est créée avec les patrons.
Oui, tout à fait. Là, c'est vraiment une des grandes victoires de ce mouvement, c'est que à la fois, c'est un mouvement qui est porté par les travailleurs eux-mêmes, qui sont soutenus par les organisations syndicales et associatives, mais qui vient des travailleurs. Et on constate vraiment qu'il y a un gros soutien des employeurs qui se sont eux-mêmes impliqués dans le processus de régularisation, donc qui accompagnent les travailleurs et qui vont aussi tenter de démontrer à quel point ces gens-là leur étaient utiles.
Ben, on retrouve justement Nicolas Joulin. Alors, on va sauter l'extrait sur les métiers captifs, je le dis pour Alexandre, mais on va écouter l'extrait sur le droit de grève.
Ce qui est assez fascinant avec ce mouvement de grève de travailleurs sans papier, et en particulier ce qu'on a coutume d'appeler maintenant l'acte 2, puisque donc il y a eu 300 travailleurs sans papier qui sont partis en grève le 15 avril 2008, qui ont été rejoints par plusieurs centaines d'autres, mais qui pour la plupart travaillaient directement pour un patron. C'est-à-dire que notamment on avait beaucoup de travailleurs de la restauration qui occupaient leur restaurant. Ils travaillaient depuis des années généralement dans le restaurant. Le patron ne pouvait pas dire « je ne vous connais pas, je ne peux rien faire pour vous ». Donc ça n'a pas été forcément facile, mais en tout cas, on était dans ce cadre-là. À partir de l'acte 2, on avait déjà eu quelques grèves d'intérimaires, mais qui avaient été très longues, très difficiles, qui avaient mis du temps à déboucher. À partir de l'acte 2, donc du 12 octobre 2009, et c'est une grève qui n'est pas complètement finie, qui n'a toujours pas trouvé véritablement son débouché, puisque les grévistes sont actuellement à la Cité de l'immigration. L'idée est bien de faire entrer en grève massivement toutes sortes de travailleurs sans papier qui n'avaient pas pu rentrer dans la première grève, c'est-à-dire des travailleurs d'entreprises sous-traitantes, des travailleurs qui sont dans des petites entreprises ou des petites et moyennes entreprises où donc ils sont très peu, voire ils sont tout seuls à être travailleurs sans papier, donc se mettre en CAF tout seul c'est compliqué, d'intégrer les travailleurs au noir, les travailleurs intérimaires, si les gens qui travaillent chez les particuliers, voilà. Donc là plutôt notamment des femmes qui étaient assez absentes, enfin qui rentrent un peu par la bande dans ce mouvement de grève. Et de ce point de vue-là, il y a une spécificité, c'est un mouvement de travailleurs sans papier donc immigrés, mais il y a une spécificité du point de vue du monde du travail de ce mouvement, c'est que, qu'ils aient des papiers ou pas, c'est la première grève massive de travailleurs des PME, intérimaires, etc., du monde du travail en France. Avec ou sans papier. C'est vraiment... ils ouvrent une brèche. Alors, est-ce que ça dégage vraiment des espaces, des nouveaux espaces juridiques pour le droit de grève? Puisque, là, par exemple, si on prend le cas de l'intérim, particularité de l'intérim, c'est donc de pouvoir acheter et vendre ensuite de la force de travail, mais en fonction des besoins immédiats de l'entreprise et de pouvoir s'en débarrasser tout de suite après. J'ai besoin pour 2 jours, j'achète pour 2 jours de force de travail. J'ai besoin pour 3 semaines, j'achète pour 3 semaines. Et hop, je stoppe tout de suite dès que le patron n'a plus besoin. Donc je peux travailler comme ça avec mon entreprise d'intérim. Et comment je me mets en grève au moment où je ne suis pas en mission? Ça, c'était une difficulté. Il y a eu beaucoup de gens qui n'étaient pas en mission, qui ne l'étaient plus parce que des agences d'intérim qui les avaient utilisées pendant des années, voyant le durcissement au niveau des contrôles sur les papiers, ont préféré peut-être ne pas prendre moins de risques et donc ne plus les embaucher. Donc c'est des entreprises qui étaient leurs patrons, mais qui ne sont plus au moment où ils se mettent en grève. Leur patron. Donc là, il y a eu toute une bataille pour savoir si ils sont bien en grève ou pas, si on peut les considérer comme des grévistes ou pas, avec des avancées et des reculs, des décisions de justice qui sont confrontées à une situation inédite, qui ne savent pas forcément exactement comment la qualifier et qui donc prennent des décisions qui, pour l'instant, ne sont pas stabilisées. Il y a des décisions qui leur nient tout droit à la grève, ou qui, en tout cas, refusent les formes que ça a pu prendre et qui ne laissent pas trop d'espace pour un droit de grève des intérimaires, qu'ils soient avec ou sans papier. Et d'autres qui, au contraire, reconnaissent que si vous êtes un intérimaire habituel de l'entreprise, même si à ce moment-là, vous n'êtes pas en mission, malgré tout, vous êtes en grève. Ce qui, si ça se confirmait, serait une véritable brèche pour un élargissement du droit de grève à des gens qui en sont traditionnellement exclus.
Voilà. Alors, on revient à ce qu'on disait au début. Grâce aux sans-papiers, on va peut-être pouvoir élargir le droit de grève. Alors, ils se battent non seulement... Pas que pour les grévistes, mais pour à peu près tout le monde, y compris les salariés français de souche.
Tout à fait. C'est ça aussi une des autres victoires de ce mouvement. C'est que non seulement ils portent des revendications qui leur permettront d'obtenir certains droits, mais on voit bien que leur mouvement va pouvoir étendre la protection à d'autres salariés. Vous voyez les 3 secteurs dans lesquels... l'industrie, l'économie française ne peut pas délocaliser, c'est le bâtiment en France, c'est le nettoyage, c'est la restauration, l'hôtellerie. Le fait que les travailleurs de ces domaines se mettent massivement en grève va pouvoir quand même aussi bénéficier aux travailleurs qui ont des papiers, voire à des Français qui travaillent dans ces domaines-là.
Voilà, donc ça c'est plutôt une excellente nouvelle, puis une bonne leçon aussi, parce que c'est aussi peut-être là on a beaucoup vu ces derniers mois un sentiment de peur justifié, donc plutôt une sorte de tendance à faire profil bas pour les gens qui risquaient d'être expulsés, d'être contrôlés à tout moment, etc. Là, il y a à nouveau des gens qui se montrent au grand jour, qui affirme la légitimité de ses droits, et sans crainte. Et donc ça, c'est peut-être un peu d'espoir pour l'ensemble de la politique d'immigration, même si la loi vient de passer, ou je ne sais pas si elle a été promulguée déjà, mais c'est vraiment... on peut encore peut-être faire quelque chose si elle n'a pas été promulguée, mais bon, c'est vraiment dramatique au niveau du durcissement. Mais néanmoins, Le droit positif, si je puis dire, la légitimité s'affiche quand même.
Oui, et vous voyez effectivement, l'entraînement qu'a amené ce mouvement, c'est qu'il y a aussi des travailleurs asiatiques qui n'ont pas forcément pour habitude de se mettre en grève et de faire des manifestations qui ont rejoint des travailleurs à la Cité de l'immigration et qui l'occupent également.
Et des femmes aussi.
Et des femmes, oui.
Voilà, des femmes qui travaillent notamment chez des particuliers. Et c'est vrai que ça a permis aussi, ce mouvement, ce collectif a permis de faire sortir des gens, de faire se mobiliser des gens qui, à la limite, qui soient avec ou sans papier, c'est toujours difficile quand on est seul dans une famille de se mettre en grève, quoi. C'est quasiment impossible.
Je pense que aussi l'une des plus belles victoires de ce mouvement, c'est qu'on va contribuer à changer le regard des Français, des citoyens sur ces travailleurs, sur ces étrangers qui sont en France, qui travaillent, qui payent des impôts, qui cotisent et qui ne voient jamais le fruit de toutes ces cotisations. Je pense que le fait qu'on les identifie maintenant aussi comme des salariés, des travailleurs et pas comme des délinquants, je pense que c'est aussi une belle victoire.
Oui, c'est le deuxième pan avec RESF qui avait déjà commencé, je crois, à faire changer l'image, parce que c'était des élèves, c'était des enfants, c'était des étudiants, et pas des délinquants du tout, et pas forcément des pauvres ou affichés comme tels, qui vivent dans des squats, etc., etc. C'était des gens parfaitement intégrés. C'était nos voisins, quoi. Et puis, là, avec les travailleurs, il y a encore ce deuxième pas, et cette fois, porté par eux-mêmes.
Oui.
Et donc oui, c'est plutôt pour une fois, c'est pas si souvent qu'avec la CIMAN on fait des choses où il y a un peu d'espoir, mais là c'est vraiment intéressant et a priori vous les voyez-vous souvent, est-ce que vous savez quelle échéance ça pourrait déboucher cette grève là de la...
Tout dépend si le ministère tient ses engagements ou non. On n'a aucun intérêt, les travailleurs n'ont aucun intérêt à ce que ça perdure pendant des mois. Je pense que tout le monde a envie de se remettre à la tâche et de pouvoir à nouveau travailler, être rétribué, et ce, en toute légalité. Donc, dans le meilleur des cas, on espère une issue positive dans les prochaines semaines. Vous avez déjà donc, des critères qui sont de mieux en mieux définis. Et donc maintenant, des dossiers qui sont montés, déposés en préfecture. La semaine dernière, on a déposé 200 dossiers à la préfecture de Seine-Saint-Denis. En un jour, il y a de quoi, il y a matière à ce qu'on demande donc des titres de séjour pour tous les grévistes, les 6804. Après, avec les services administratifs, on verra à quel rythme ils arrivent à traiter toutes ces demandes. Et j'espère que dans les prochains mois, tout le monde pourra ressortir de la cité avec un titre de séjour.
Titre de séjour, droit de travail. Alors, c'est ils ont droit à quel titre exactement ? Parce que les titres de séjour, il y en a plusieurs.
Oui. C'est un titre de séjour en qualité de salarié que demandent toutes ces personnes. Oui.
Donc, durée d'un an renouvelable ?
C'est des cartes de séjour temporaire d'un an renouvelable.
D'accord. Qui donne droit à la nationalité éventuellement, au bout de combien de temps ?
Dans plusieurs années plus tard, effectivement, vous pouvez accéder à la nationalité avec d'autres conditions à remplir. Pour l'instant, on en est plutôt à la régularisation en qualité de salarié. Oui.
Mais en l'occurrence, c'est vrai que c'est pas si idiot, puisqu'on a parlé d'immigration choisie. L'immigration pour le travail a été valorisée dans certains discours qu'on ne citera pas à nouveau ici. Ça va tout à fait dans le sens, sauf qu'on ne fait pas venir les gens, mais on intègre ceux qui sont là, dans des secteurs qui manifestement recrutent et ont besoin de toute la main-d'œuvre, y compris ces gens-là. Bon, le seul souci, c'est que si ces gens-là sont légaux, ils auront peut-être des exigences un peu plus fortes et seront peut-être un peu moins flexibles. C'est à peu près le seul problème.
Oui, c'est vraiment ça, puisque effectivement, même si c'est très malvenu de parler d'immigration choisie, quand on sait que la plupart des personnes viennent en France, non pas par choix, mais vraiment par nécessité économique, même la réalité actuelle ne correspond pas à ce discours affiché. Et effectivement, c'est tout à fait la cible de ces discours, hein, les personnes qui viennent en France offrir leur force de travail. Et pour autant, on voit qu'il y a des difficultés pour les régulariser, effectivement, parce qu'une fois régularisées, elles auront accès à tout un certain nombre de droits qui ne permettront plus à certains secteurs de l'économie d'être compétitifs vis-à-vis de l'extérieur.
Alors justement, on va écouter maintenant Jean-Pierre Garçon, qui est directeur du secteur migration internationale à l'OCDE, alors qui est connu pour être quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche, mais qui n'est pas un militant. Lui, il a une approche tout à fait rationnelle et chiffrée des choses, chiffrée autant que faire se peut. Je l'ai rencontré et on a parlé justement de ces travailleurs sans papier. Il fait la démonstration que la régularisation est inévitable.
Aujourd'hui, on cumule deux handicaps. Le premier handicap, c'est que on est en période de crise économique. Et le deuxième handicap, c'est qu'on est dans une situation de morosité économique depuis très longtemps, c'est-à-dire avec un taux de chômage élevé dans le pays, en général, encore plus élevé au sein des populations immigrées et de leurs enfants. Et la crise n'a fait qu'accentuer cette tendance. Donc la gravité du phénomène aujourd'hui, de la clandestinité, c'est qu'on reste plus longtemps dans la clandestinité en période de crise que ça n'est le cas en période de croissance économique. La perspective d'être régularisé est plus importante en période de croissance économique parce que les besoins se font sentir et qu'il faut ajuster plus rapidement. En période de crise, on est dans un contexte où on peut rester plus longtemps dans la clandestinité. Et finalement, ce n'est pas tellement la quantité qui est importante là. Elle est certainement moins importante en termes quantitatifs, en valeur absolue, qu'en période de croissance. Mais c'est le fait de rester beaucoup plus longtemps dans la clandestinité. C'est pourquoi il est important de ne pas fermer totalement la porte aux régularisations. Parce qu'il y a des cas qui sont vraiment importants et qu'il faut en tenir compte. Alors, la régularisation au cas par cas n'est pas pareil que la régularisation par opération exceptionnelle. Je vous ai dit, on a tout essayé en France là-dessus. Mais il est important qu'elle demeure, cette régularisation au cas par cas. Et quand les cas concernent quelques milliers de personnes, ben c'est toujours mieux que rien.
Justement, ben vous le savez, actuellement, il y a 500 personnes travailleurs sans papier qui occupent la Cité de l'Histoire et de l'Immigration. On parle dans ces cas-là de régularisation au cas par cas, où leur lutte aura permis de déterminer des critères qui vont pouvoir permettre une régularisation, je ne vais pas dire automatique parce que ce ne sera pas le cas, pour toutes les personnes qui remplissent ces critères. Comment vous voyez les choses à ce niveau-là ?
Je les vois, dans une optique longue et structurelle. Tout à l'heure, on a évoqué le fait que la France a une longue expérience du travail en situation régulière et de la régularisation des travailleurs. La France a aussi une longue expérience de lutte qui sont impulsées soit par les immigrés, soit par les organisations de défense des immigrés. Donc on n'est pas un pays sans droit, et on est un pays où il y a souvent des réactions qui mettent en avant ces questions de sans-papiers. Et ça ne concerne pas que la France. Ça concerne aussi des pays dont on entend moins de bruit, entre guillemets, que ce soit la Suisse, que ce soit la Belgique, les Pays-Bas. Beaucoup de pays d'OCDE avaient dit « nous, on ne fait pas de régularisation ». Et finalement, ils ont été amenés à le faire. Pourquoi ? Parce que quand ça prend une certaine ampleur, ou quand ça concerne des secteurs en particulier, dans lesquels le pouvoir des travailleurs, et on l'a vu récemment en France, le pouvoir des syndicats et des employeurs, c'est ça qui est original dans les récentes régularisations en France, c'est le fait que les employeurs aussi s'y sont mis. Et donc, ils le faisaient déjà dans le passé, mais on l'avait oublié. Et donc là, ils sont revenus au devant de la scène parce que, dans certains secteurs, c'était crucial. Et donc, ça, finalement, c'est une leçon extrêmement intéressante. Pour les sans-papiers là, qui occupent la Cité de l'Immigration, bon, il y a un caractère symbolique dans ce qui est fait là. Et finalement, bon, c'est intéressant. À la limite, on peut se dire, ce qui est intéressant, finalement, c'est que ce soit que 500 personnes. Du coup, ça donne aussi à penser à tous ceux qui avancent des chiffres en centaines et centaines de mille de clandestins. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 500 personnes en situation régulière. Mais ça veut dire quand même qu'il faut être prudent avec les chiffres et que finalement, le sort de ces 500 personnes, ça appartiendra donc aux décisions qui seront prises au niveau des préfectures.
Enfin, ceci dit, ils demandent la régularisation pour 6 000, hein, ce n'est pas 500. Il y a 500 qui occupent de manière permanente.
Oui, mais bon, d'accord, 6 000, c'est ce que j'ai dit, un certain nombre de milliers, mais on est loin de centaines de mille. Ça ne veut pas dire que les estimations qui sont avancées soient totalement farfelues, mais ça veut dire que, c'est clair, la meilleure façon d'avoir au moins une fourchette, ne serait-ce qu'une fourchette basse, c'est de procéder à des régularisations. Et lorsque dans un pays, quel qu'il soit, France comprise, on a suffisamment d'informations au niveau des différents ministères, au niveau des différents acteurs qui suivent cette question. Lorsqu'on a des informations suffisamment sérieuses et que ces informations montrent qu'il y a un nombre très important d'immigrés en situation régulière, il n'y a pas d'autre solution que la régularisation.
Voilà, donc là, la démonstration est faite. Déjà, deux choses importantes dans ce que dit Jean-Pierre Garçon, c'est que justement, on voit qu'il n'y a pas... là, il y a 6800 demandes. C'est loin de l'invasion qu'on nous vend parfois dans certains discours. Et deuxième chose, la régularisation semble économiquement, logiquement inévitable.
Oui, tout à fait. C'est une analyse très juste.
Et puis alors économique, bien sûr que c'est quelqu'un qui est sensible aussi, mais disons qu'il il pose les choses d'une manière, en économiste, en statisticien.
Plutôt rationnel, voilà. Oui, effectivement. Mais ça, c'est ce qu'on a cessé de dire depuis des années. Je dirais même, on peut remonter jusqu'à la fermeture des possibilités d'immigration économique au milieu des années 70. On a fait un lien qui n'avait pas lieu d'être entre crise économique et besoin de main-d'œuvre étrangère. Ce lien est vraiment absolument pas adapté, et encore moins aujourd'hui.
Donc, vous pensez, vous aussi, vous êtes plutôt optimiste sur la régularisation, là, sur un peu de clairvoyance qui risquerait de tomber dessus?
Oui, dans ce mouvement-là, je suis relativement optimiste, puisqu'on a quand même eu certains engagements de la part de l'État. Là, c'est aussi une des victoires de ce mouvement, c'est qu'on a obligé le ministère de l'Immigration et le ministère du Travail à se remettre à la table des négociations. Donc, j'ai un optimisme relatif sur ce mouvement-là pour ces 6804 personnes. Après, je trouve dommage que dans le cadre où on est en train de débattre d'un nouveau projet de loi sur l'immigration, un énième projet de loi, que la régularisation des travailleurs n'ait pas été inscrite de manière durable dans la loi, puisque maintenant c'est simplement sur des textes temporaires qui n'ont pas la même force légale. C'est plutôt là que j'aurais envie d'aller plus loin, quoi.
Alors, il y a des militants de la CIMADE, on l'a rappelé, qui ont fait une grève de la faim devant l'Assemblée nationale, justement contre l'adoption de ce projet de loi, pour sensibiliser à la fois le public, mais aussi les représentants du peuple. Il y a quand même, on a l'impression qu'il y a... C'est un petit peu absurde, parce qu'à la fois on durcit beaucoup les conditions de séjour avec les fameux bannissements. Là, on vient d'apprendre que l'aide médicale va maintenant être payante, ce qui est complètement absurde aussi économiquement. Si on reste dans la rationalité, des gens vont soigner beaucoup plus tard avec des pathologies beaucoup plus lourdes qui coûteront beaucoup plus cher à tout le monde et surtout à eux-mêmes en termes de santé. Il y a cette brèche du travail qui s'ouvre. C'est assez curieux quand même, cette incohérence.
Oui, tout à fait. C'est très curieux. Mais à mon sens, c'est plus curieux que ça ne soit pas suivi d'effet durablement, puisque c'est une brèche qui s'est ouverte, effectivement, mais là, de manière relativement temporaire. Ce que je trouve curieux et incohérent, c'est qu'on n'ait pas pris acte de cette évolution, de cette nécessité de régularisation des travailleurs en l'inscrivant dans ce projet de loi. Enfin, je crois que ça ne sera pas la première incohérence dans ce projet qui nous est présenté, qui n'est pas encore promulgué, puisque après un passage devant l'Assemblée nationale, il est en cours d'examen devant le Sénat.
D'accord, donc il y a encore possibilité de faire des choses. Et alors, notamment, si on se rend sur le site de la CIMADE, je crois qu'il y a des pétitions en ligne, j'ai cru voir ça. Il y a moyen de se mobiliser, de faire savoir que les citoyens français ne sont pas forcément d'accord avec ce qu'on leur prête comme idée et comme intention.
Joindre les sénateurs pour leur expliquer en quoi ce projet peut sembler vraiment une dégradation énorme dans les droits des personnes étrangères qu'on accueille sur le sol. D'ailleurs, vous pouvez voir aussi sur le site deux formes de quiz très très intéressants, parce que ça vous permet justement de bien imprégner à la fois les dispositions du projet de loi et ce qui est déjà passé à l'Assemblée. Vous aurez de mauvaises surprises en voyant tous les articles qui sont passés et la façon dont ils sont passés aussi. Il y a des moments où il y a eu des suspensions de séance pour faire revenir un nombre de votants suffisant. Enfin, c'est assez affligeant.
C'est très instructif sur notre démocratie.
Tout à fait.
Merci beaucoup en tout cas d'être venu ce matin nous parler de tout ça à Naturo. Je rappelle qu'on vous a déjà reçu le mois dernier pour Chronique de rétention, un livre auquel vous avez participé et qui est évidemment toujours en vente dans toutes les librairies et qu'on peut également commander, j'imagine, par le site ou avoir toutes les références. Donc vous continuez votre travail en rétention, enfin vous et tous ceux qui y interviennent. Plus là, à la Cité de l'immigration, enfin, partout où on a besoin de vous, à peu près.
Voilà.
Voilà. Merci beaucoup d'être venu ce matin.